Grande Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Und Femme. Und Femme, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Remue Ménage. Ouh là là, ça grince. Onde Femme, Radio Zone 93.8. Et comme tous les mercredis, nous nous retrouvons 17h, 18h30 pour Remue Ménage. Mais c'est le dernier Remue Ménage que nous avons en direct pour ce mois de juin 97, puisque dès la semaine prochaine, eh bien, Onde Femme au grand complet se met au vert et vous propose la rediffusion des meilleures émissions effectuées au cours de l'année. Enfin, du moins les meilleures, celles qui, à notre avis, vous accompagneront durant l'été le mieux, soit le plus agréable parce que ça vous cause de voyages et d'expériences, soit parce que c'est à notre avis des sujets qui valent la peine d'être réentendus, que nous, des femmes que nous avons rencontrées tout au cours de l'année. Alors quant à moi, je vous proposerai par exemple de redécouvrir au travers d'un regard au féminin une ou deux régions de ce monde que j'ai eu l'occasion de visiter ces derniers mois. En l'occurrence, je vous propose la rediffusion de mon carnet de route sur la Mongolie. Ce sera la semaine prochaine et la semaine suivante. Et puis ensuite, vous découvrirez, vous entendrez cette conversation très intéressante que nous avions eue avec deux femmes responsables du programme Femmes SIDA. Puis l'engagement d'une mère et d'une fille dans la vie de tous les jours, dans Amnesty International, et comment la fille va certainement rejoindre le travail de la mère si ce n'est pas déjà fait. Et puis ensuite au mois d'août, eh bien, vous redécouvrirez Carnet de route, regard au féminin, mais cette fois-ci en Palestine et pour trois émissions successives. Voilà, ça c'est le programme des rediffusions pour le mois de juillet et le mois d'août dans Remue Ménage. Quant à Radio Pleine Lune, que ce soit Viviane ou Marjolaine, eh bien, elles vous proposeront leurs émissions. Viviane des rediffusions, Marjolaine toujours fidèle au poste en direct pendant tout l'été. Et c'est elle qui s'assure que la machine fonctionne bien. Alors nous la remercions toutes très vivement d'assurer la permanence d'Onde Femme sur Radio Zone 93.8 tous les mercredis 17h, 20h, puisque c'est les heures en direct que vous avez dans Onde Femme tous les mercredis. Quant à aujourd'hui, eh bien, ce dernier jour en direct, je vous propose, comme je le fais tous les 2-3 mois dans Remue Ménage, eh bien, ce que j'appelle la planète femme. La planète femme à travers la presse. Aujourd'hui, j'ai choisi en particulier de feuilleter le courrier international qui paraît chaque semaine. J'ai pris le courrier international dans les semaines du mois de mai, donc c'est tout récent. Et j'ai regardé comment ce journal, qui nous propose des articles extraits des journaux du monde entier, eh bien, comment il s'est fait l'écho des questions concernant les femmes. Alors nous allons partir, nous allons avoir des nouvelles de Russie, d'Iran, d'Italie, de Grande-Bretagne, d'Inde, d'États-Unis et de Pologne. Un long parcours dans le monde à travers les sujets concernant les femmes. Et tout de suite, eh bien, nous partons pour la Russie.
Oh!
Russie, les nostalgiques du stalinisme refusent toujours de privatiser le corps de la femme. C'est un article qui nous vient de Moscou et qui est tiré de la Nezavissimaya Gazette. Une explosion des maladies vénériennes et du sida, 500 000 enfants abandonnés, un très fort taux de mortalité chez les femmes enceintes, une arriération culturelle profonde pour tout ce qui touche à la sexualité. Il est grand temps de développer une politique de planning familial. C'est ce que clame la journaliste et fondatrice du Parti des femmes, Ekaterina Lakova. Alors, avant de commencer cet article, cette femme s'est longtemps demandé quelles pouvaient être les raisons de la récente avalanche de critiques à l'égard du programme du planning familial, en particulier critiques provenant des députés communistes lors de l'examen du budget 1997 à la Douma, donc le Parlement russe, et de journaux d'opposition qui ont publié des articles contenant des informations notoirement erronées. Alors, elle estime avoir trouvé la réponse et elle nous l'a fait partager. Les bases du projet planning familial ont été jetées en Russie entre 1991 et 1993 et un décret spécial du Kremlin lui a conféré la qualité de programme présidentiel en 1994. La gravité de la situation sanitaire et démographique de la Russie des années 90 est à l'origine de l'élaboration de ce programme. Et les indicateurs principaux sont connus. À savoir, un tiers des femmes enceintes souffrent d'anémie, environ 70% des enfants sont atteints d'une maladie à la naissance, la mortalité des femmes enceintes est 5 à 10 fois plus élevée en Russie que dans des pays développés, la mortalité infantile est 2 à 4 fois plus élevée que dans les pays développés. La part des décès dus aux avortements et aux complications qui s'en suivent s'élève à environ 26%. Donc des chiffres, on le voit, absolument dramatiques. L'avortement reste, on le sait, pourtant déjà le moyen le plus courant de régulation des naissances en Russie, qui occupe la deuxième place mondiale en nombre d'interruptions de grossesse, juste après la Roumanie. En Russie, sont pratiqués à peu près 3 millions d'avortements par an, c'est-à-dire pour 150 millions d'habitants, dont 300 000 sur des jeunes femmes de moins de 19 ans. En 1995, on a enregistré 6000 grossesses de jeunes filles de moins de 15 ans, dont 2500 ont été interrompues. Rien d'étonnant à cela, l'utilisation de méthodes modernes de contraception par les femmes en âge de procréer reste très peu répandue et la population est absolument sous-informée. En Angleterre et aux Pays-Bas, près de 50% des femmes emploient une contraception hormonale et contre 5 à 6% chez les jeunes femmes russes. L'augmentation catastrophique de la propagation des maladies sexuellement transmissibles, en particulier chez les jeunes filles de 15 à 19 ans, constitue l'une des tendances actuelles les plus dangereuses. Ces 5 dernières années, le nombre d'adolescents touchés par la syphilis a été multiplié par 31. Les personnes infectées par des maladies vénériennes sont 100 fois plus nombreuses qu'il y a 10 ans. Quant au sida, il progresse lui aussi. Alors en conséquence de tout cela, un dixième des couples russes ne peuvent avoir d'enfants pour cause de stérilité masculine dans la moitié des cas. Pendant ce temps, de nombreuses femmes abandonnent leur bébé dès la maternité, pour des raisons sociales le plus souvent. Environ 500 000 enfants sont élevés en orphelinat, alors que leurs parents sont pourtant vivants. Alors d'où vient cette terrible réalité? La réponse que donne Ekaterina Lakova est la suivante. Premièrement, à une situation socio-économique complexe du fait des soi-disant réformes introduites ces dernières années. Se sont ajoutées à cela d'importantes transformations dans ce qu'on appelle le comportement reproductif des hommes et des femmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, dans le monde entier, pas seulement en Russie, les jeunes accèdent plus tôt qu'auparavant à la maturité sexuelle. Parallèlement, ils se marient beaucoup plus tard, entre 24 et 30 ans. Le seul moyen d'empêcher que la vie sexuelle précédant le mariage n'entraîne des conséquences humaines et sociales graves consiste à prodiguer une éducation élémentaire sur la sexualité et ses implications. Et c'est ce qui se fait dans tous les pays dits civilisés. Mais on sait bien qu'en Russie, il n'y a jamais eu de sexe ni de débat public sur cet aspect essentiel de la vie. À la fois profondément personnel, d'une part, comme débat, mais aussi, bien sûr, d'une grande importance pour la société. Alors, dit Ekaterina Lakova, je ne parle pas d'aller fouiller dans les détails intimes de la vie d'autrui, parce que, bon, ça, on n'a pas envie, mais il faut en parler sérieusement de la façon et des conditions dans lesquelles un humain vient au monde, aime et quitte la vie. Avec la publication d'ouvrages pornographiques en quantité énorme et l'éruption de l'érotisme sur les écrans de cinéma et de télévision, la population adulte russe, en particulier la jeune génération, est devenue une sorte de grand groupe à risque. Ces conditions ont rendu indispensable l'élaboration immédiate d'une politique spécifique de l'État dans les domaines du planning familial. Un programme fédéral a été mis au point en fonction de principes internationaux éprouvés, exposés dans des documents tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme ou la Convention sur la suppression de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ainsi que les programmes d'action des conférences internationales sur la population et le développement. Alors, tous ces documents classent les droits à la reproduction dans la catégorie des droits élémentaires de l'être humain. Notre pays, dit toujours Ekaterina Lakova, ne dispose toujours pas de législation de ce type. Cela peut paraître paradoxal, car la Russie soviétique a pratiquement été le premier pays au monde à tenter d'influer sur le comportement sexuel des citoyens. Et durant plusieurs décennies, la capacité physique et le droit des femmes à procréer ont dépendu des aléas politiques et économiques du pays. Dans les années 20, par exemple, la nécessité d'engager les femmes dans la restauration de l'économie en ruine et l'augmentation du nombre d'enfants abandonnés ont motivé la légalisation de l'avortement. En 1936, avec la chute de la natalité et la nécessité de reconstituer des ressources humaines, eh bien, l'avortement a bien sûr été de nouveau interdit, puis il a été réautorisé en 1955. Mais il existe depuis de longues années des méthodes civilisées et sans danger médical pour prévenir une grossesse non souhaitée. La contraception hormonale, par exemple, dont jusqu'à ces derniers temps, la grande majorité des femmes russes ignoraient tout. Les médecins propageaient même l'idée qu'elle était très nocive et ne la prescrivaient donc pas. L'industrie pharmaceutique de la Russie ne produit toujours pas de contraceptifs. Alors pourquoi les services de planning familial étaient-ils inaccessibles aux citoyens de notre pays jusqu'à ces tout derniers temps ? Le problème est moins médical que psychologique, voire idéologique. Tant que le seul instrument de contrôle des naissances reste l'avortement, l'État maintient une surveillance du comportement sexuel des citoyens. La contraception, elle, les libère du regard vigilant des autorités. Et l'État soviétique ne pouvait ni ne désirait rendre possible la pratique des droits de l'homme en matière de procréation. Il était opposé à ce que Ekaterina Lakova appelle la privatisation par l'être humain de sa propre vie intime. Et bien pire que cela, cet État utilisait les normes et les usages de la culture traditionnelle pour faire pression sur la femme qui voulait avorter. Toute la procédure tentait à l'humilier. Médecins et personnel hospitalier l'accueillaient avec une grossièreté appuyée. Les interventions se faisaient la plupart du temps sans anesthésie et les salles se trouvaient en sous-sol. La femme était ainsi châtiée pour le péché d'une vie sexuelle non liée à la naissance d'un enfant. L'opinion publique la méprisait, associant avortement et vie de débauche. La femme allait avorter en risquant sa santé, sa réputation et parfois même sa vie. Alors c'est ce genre de sexophobie comme symbole de la conscience totalitaire qui, selon l'avis d'Ekaterina Lakova, je vous le rappelle, fondatrice du Parti des femmes et journaliste, se manifeste aujourd'hui chez les adversaires du planning familial. Eux non plus ne veulent pas reconnaître aux femmes russes le droit de disposer librement de leur sexualité, leur droit au planning familial, c'est-à-dire plus spécifiquement pour les femmes, à la planification de leur vie et de leur destin. Oh, Ça, c'était la Russie et la Russie avec Saïko Namchilak. Maintenant, nous allons partir en Iran pour découvrir, et ça ne vous surprendra sûrement pas beaucoup, que les femmes sont les mal-aimées du grand écran. Avant la révolution communiste, elles étaient dangereusement fatales et dévoyées. Aujourd'hui, on les voit soumises, inaptes à exister loin du regard et de la protection des hommes. Le cinéma iranien n'aime décidément pas les femmes. Selon le règlement de réalisation des films en vigueur en Iran, il est interdit de promouvoir toute idéologie interdite par la loi ou opposée à l'ordre islamique. Il est interdit d'utiliser des prénoms ayant des racines religieuses pour des personnages négatifs. Il est interdit pour la femme d'exhiber les cheveux, la nuque et les bras. Toute partie du corps, à l'exception du visage et des mains, devra être couverte. Il est interdit de changer et de varier les costumes des acteurs durant le film sans justification logique. Mais il est aussi interdit pour les hommes de porter cravate, nœud papillon et utiliser d'autres objets manifestations de la culture étrangère. Il est interdit de montrer des femmes au visage maquillé. Il est interdit d'utiliser des coupes de cheveux qui symboliseraient l'appartenance à des groupes effrontés, comme par exemple les rappeurs. Il est interdit d'exprimer toute plaisanterie, paroles, comportements, gestes et signes entre les personnages féminins et masculins qui manifesteraient une atteinte au comportement de respect en usage dans la société. Il est interdit de faire un gros plan sur un visage féminin. Il est interdit de montrer un contact physique entre hommes et femmes, employer de jeunes actrices sans une autorisation préalable du Bureau général de la surveillance et des valeurs est aussi interdit. Il est interdit de faire porter le tchador au personnage négatif sans justification logique, etc., etc. Je crois que l'on pourrait... La liste est très longue de ce qu'il n'est pas autorisé de faire dans le 7e art iranien. Alors, dans l'histoire du cinéma iranien d'avant la révolution islamique, une certaine image de la femme domine. Tentatrice, dangereuse, semant la zizanie. Et ça, c'est ce portrait cliché que l'on trouve, par exemple, dans un film qui est appelé « Le trésor de Karun », qui a été réalisé en 1964, où Ali Le Sans-Souci, qui est un homme respectueux des traditions, lance à Forouzane, qui est l'actrice la plus célèbre de l'époque, vêtue d'un maillot de bain, « Il n'est pas bien de s'habiller ainsi. Les femmes sérieuses ne portent pas de tenue de ce genre. » Dans le cinéma de cette époque, les femmes apparaissaient sans cesse comme des danseuses de cabaret ou des semi-prostituées. Les hommes, eux, ont pour mission de les ramener dans le droit chemin, le mariage et la vie de famille. Alors, ce début de portrait du cinéma iranien d'avant la révolution islamique, vous le trouvez dans la revue de cinéma Ye Azad, qui est publiée en Allemagne, bien que évoquant le cinéma iranien. L'article écrit par Niloufar Mezaieh continue ainsi. Dans les années 70, la nouvelle vague iranienne qui s'intéresse aux problèmes sociaux reproduit les mêmes erreurs mais d'une autre manière. On se débarrasse des débauchés et de nouvelles femmes entrent en scène, mais toujours comme éléments de désordre. Démunies du pouvoir de se défendre, elles ont besoin d'hommes bagarreurs pour les protéger. Ces films portaient un regard critique sur des relations inégalitaires entre hommes et femmes, mais entretenaient le même regard misogyne sur le deuxième sexe. Tamineh Milani fait partie de la poignée de réalisatrices apparues après la Révolution. Elle a débuté avec Les enfants du divorce, qui évoquait un sujet relativement nouveau. Mais son regard reste celui d'un homme. Bien que le personnage du père soit négatif, il bat sa femme et ses enfants, se drogue et prend une autre femme, ce qui entraîne le divorce avec son épouse. En fin de compte, il pousse cette dernière à revenir au foyer. Alors dans ce film, la femme se sacrifie pour ses enfants et accepte une vie qui la fait souffrir. Elle est passive. Donc réalisatrice, féminine ou pas, ça ne change rien. Avec Sarah, le réalisateur Mère Yogi considère qu'il présente une image de la femme plus positive. L'héroïne se sacrifie, encore et toujours, en empruntant une grosse somme d'argent à un ami pour guérir son mari et fait des travaux de couture en cachette la nuit pour rembourser son créancier. Quand le mari s'en aperçoit, il se fâche sans raison et la femme déçue le quitte. La bonté de celle-ci et son dévouement s'accomplissent dans la couture, la préparation des repas, etc. De fait, on retrouve là encore l'image idéale de la femme d'un point de vue de l'homme. Quelques films, semble-t-il, toutefois, apportent un regard un peu plus juste sur le sujet. Tel, par exemple, le film qui a pour titre « Ray et Haney », bon, ma prononciation, je ne vous dis pas, mais enfin bon, du réalisateur Dalireza Raisan, où l'on voit à quel point les femmes n'ont pas le droit de choisir leur vie. Par exemple, rejetée par son mari, l'héroïne Rayane se réfugie chez des amis, elle tombe amoureuse de leur fils et s'enfuit avec lui. L'histoire montre l'extrême solitude de la femme iranienne, mais elle dit aussi que le salut passe forcément par un homme et que la femme n'a pas la possibilité de mener seule une vie normale. Alors dans le cinéma iranien, censure et répression réduisent l'espace d'expression des sentiments intimes des femmes. Celles qui apparaissent sur les écrans se contentent de quelques mots de contestation dans la marge de ce qui est autorisé, comme je vous l'ai lu tout à l'heure. Les hommes, en revanche, parlent sans cesse, débordent d'énergie, bien évidemment, et la censure imposée sur la société iranienne joue bien sûr un rôle énorme pour restreindre la réalisation cinématographique. Mais un autre facteur entre en jeu dans l'image que le grand écran donne des femmes, une pensée hostile à la féminité qui prédomine chez la majorité des cinéastes iraniens. Italie, tirée de la Repubblica, la très belle mais très fausse histoire de la pilule de l'orgasme ou comment une découverte scientifique légèrement adaptée par un journal britannique se transforme en une information imaginaire qui fait le tour du monde. Alors, de quoi s'agit-il? Quel est le scandale? Eh bien, attention, ceci est une histoire réservée aux adultes. Une histoire d'orgasme et de pilules pour l'orgasme. Elle commence dans une respectable université américaine, celle de Rutgers, dans le laboratoire des neurologues Barry Komisaruk et Barbara Whipple, où l'on étudie un problème douloureux et fort peu sexy, la transmission des impulsions nerveuses le long de la moelle épinière des paraplégiques. Les chercheurs découvrent que les femmes qui souffrent de traumatismes spinaux et qui ont donc perdu le contrôle de la partie inférieure du corps réussissent toutefois à avoir des orgasmes parce que les impulsions atteignent le cerveau en court-circuitant le blocage dont elles sont victimes. Cela signifie que le siège de l'orgasme se trouve dans le cerveau et qu'il peut être stimulé indépendamment des organes sexuels, concluent les deux chercheurs dans un congrès de neurologie. Le Sunday Times de Londres, jadis internationalement reconnu pour son sérieux, mais aujourd'hui aussi désespéré que tous les journalistes dans la profession et tous surtout les propriétaires de journaux, eh bien décide de s'emparer de cette information clinique. Et il titre « Les scientifiques américains sur le point de produire la pilule de l'orgasme ». En voyant cet article, repris avec prudence par Associated Press, les deux chercheurs pâlissent, appellent Londres, démentent avoir jamais rien dit de tel et nient qu'il puisse jamais exister une pilule pour l'orgasme, qu'il soit féminin ou masculin. Mais trop tard. L'histoire est trop croustillante pour qu'on en vérifie la véracité. Les médias américains qui considèrent la presse anglaise comme plus sérieuse que la leur en font leur chou gras. La pilule qui rend les hommes inutiles, titre l'Evening Standard, reprenant à Londres ce que les Américains avaient repris aux Britanniques dans le vertigineux jeu de miroir médiatique que l'on connaît. Et les journaux latins, asiatiques, arabes, qui prennent pour argent comptant toutes les inventions, pourvu que ce soit écrit en anglais, reprennent la nouvelle. Et le monstre court, galope sur ses pattes tordues, provoquant l'indignation des théologiens ça, on n'est pas fâché, produisant des dessins, des interviews de sexologues, des articles de moralistes. Oh là là, la télévision turque même dépêche des journalistes à l'université de Rutgers pour savoir si les femmes musulmanes, un peu pénalisées ces derniers temps, pourront bientôt hurler de plaisir sans devoir enlever leur tchador. Des dizaines et des dizaines de chaînes américaines, européennes, asiatiques harcèlent l'université de Rutgers pour s'assurer la présence des inventeurs du Kamasutra chimique. Et pendant quelques temps, les chercheurs participent à leurs émissions, mais à peine ont-ils dit que la pilule n'existait pas et que les animateurs les regardent de travers, on abrège leurs prestations. Vive la liberté de presse et l'information. Aujourd'hui, eh bien, nos deux chercheurs, à savoir M. Komissarouk et Mme Wijpels, ne répondent plus à personne. Ils se sont murés dans un silence un peu coupable, car en dépit de leurs protestations, ils savent qu'ils ont vraiment créé une pilule, celle de nos éphémères orgasmes journalistiques. Et ça, c'est Vittorio Zucconi qui le dit, et Nana Giannini qui chante Scandalo sera sûrement d'accord avec lui.
Voglio uno scandalo, voglio uno scandalo, l'ultimo scandalo, voglio uno scandalo io con te e tutti i figli tuoi.
Jenna Nannini, vous l'aurez compris, elle veut le scandale. Hein, elle veut faire un scandale avec sa copine. Elle y arrivera sûrement très bien et sans pilule pour provoquer l'orgasme. Nous partons maintenant aux États-Unis. Et pour savoir ce qu'il se passe dans les liaisons fatales effectivement pour les femmes, en particulier lorsque des femmes à New York sont assassinées. Bien sûr, c'est fort tragique. Je ne tiens pas du tout à me moquer, mais c'est quand même assez surprenant que l'article écrit par Pam Belluc dans le New York Times ait pour titre « Liaison fatale ». Quand même, quand on parle de femmes assassinées, c'est un petit peu étrange comme méthode, comme titre pour cela. Alors, de quoi s'agit-il ?